Alors que le gouvernement repense à sa copie dans son protocole sanitaire appliqué dans les établissements scolaires, on peut être mauvais élève aussi face au Covid. Notre invitée sait certainement de quoi je parle, elle qui pointait il y a quelques semaines des chiffres de vaccination faibles dans les Alpes-de-Provence, faisant du département le cancre de la métropole. Violaine Desmarais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préfète des Alpes-de-Provence. Depuis ce point presse où vous déploriez la faible vaccination dans le département, il y a eu une autre date, il y a eu le 15 septembre, l'obligation vaccinale pour certains corps de métier. On a beaucoup parlé des soignants, on a beaucoup parlé des pompiers. S'ils voulaient poursuivre leur activité professionnelle, il fallait se faire vacciner. Aujourd'hui, on dresse quel bilan ?
Bah écoutez, vous avez résumé les choses. Nous étions en effet à la rentrée des classes, le dernier de la classe en métropole en termes de vaccination. Et on accuse toujours un retard, puisqu'on a 4% de retard par rapport à la moyenne régionale et française en termes de vaccination, toutes populations confondues. Et pour les 12-17 ans, dont vous savez que la vaccination a été lancée avant l'été et accélérée à la rentrée, on a un retard de 2 points. Donc l'écart se creuse un petit peu. Donc les dernières semaines nous ont permis de rattraper un peu les choses, qui est une bonne nouvelle, mais on reste encore en retard, donc il y a encore du travail à faire.
Pour ces 12-17 ans, on rappelle quand même pour la vaccination des 12-17 ans, il y a quand même cette autre date, le 30 septembre.
Et là aussi, à partir desquels les 12-17 ans doivent en effet avoir un pass sanitaire pour accéder à certaines activités comme les adultes. Et donc en effet, il faut qu'on arrive à accélérer cette campagne. C'est la raison pour laquelle nous on a l'offre qui est là dans les centres de vaccination, dans les établissements scolaires. Il faut que les bas alpins la saisissent.
Mais alors justement, on en tire quelle conclusion ? Les bas alpins, c'est une population de réfractaires ou c'est la communication qui passe mal ?
Moi, j'en tire pas de conclusion quelconque, parce que c'est compliqué de déterminer ce qui fait qu'à tel ou tel endroit, on a des refus de vaccination. Je pense qu'à l'image de l'ensemble des Français, les Bas-Alpins se posent des questions. On a essayé de travailler sur les questions de mobilité pour nous assurer que c'était pas un frein, parce qu'on a un département, vous le savez, qui est extrêmement vaste. Mais vraiment, je crois que là, on a vraiment fait le maximum pour surmonter ces difficultés. Donc, je suis confiante dans le fait que les choses changent, parce que comme indiqué, déjà ces 3 dernières semaines, on a une évolution positive de la situation. Il reste encore quelques semaines pour le faire, pour ceux qui le souhaitent.
Donc, ça veut dire que quand je parlais des soignants et quand je parlais des pompiers, aujourd'hui, on arrive à une situation qui n'est pas immobile, qui évolue positivement.
On n'est pas immobile puisque le 15 septembre, donc, qui vous l'avez rappelé, était la date fatidique à laquelle l'obligation vaccinale pour les soignants était en vigueur. On avait autour de 300 sapeurs-pompiers qui étaient suspendus. Bien, au fur et à mesure que les jours ont passé après le 15 septembre, on en a une partie d'entre eux. Je parle des sapeurs-pompiers volontaires, puisque les professionnels, il n'y a pas de sujet. Ils étaient tous vaccinés à l'exception de 3. Mais donc sur les sapeurs-pompiers volontaires qui font tourner, vous le savez, nos centres d'incendie et de secours, on est maintenant à un peu plus de 170 pompiers qui sont suspendus. Donc vous voyez, là aussi les choses bougent et les gens, au fur et à mesure, rentrent dans le pas de la loi et de l'obligation vaccinale. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir, il faut que les choses continuent ainsi.
Et pour les soignants qui ont été mobilisés, qui ont manifesté ces dernières semaines ?
Pour les soignants, bah écoutez, il reste des oppositions qui sont importantes dans ce département, l'obligation vaccinale, en sachant qu'on parle des hôpitaux, mais il faut pas oublier qu'en termes de médecine de ville, on a là aussi, en termes de professionnels de santé, en moyenne, beaucoup plus d'opposition à la vaccination depuis le début dans ce département. Et déjà au mois d'avril, quand le ministre de la Santé venait dans notre département, on était 15 points de retard en termes de vaccination des soignants. Les soignants sont des relais. Vous allez voir votre médecin de famille pour qu'il vous conseille sur la vaccination. Si en moyenne les soignants sont moins vaccinés, il n'est pas tout à fait illogique que la population le soit un petit peu moins. Mais là aussi, moi, je voudrais qu'on parle de ceux qui se sont fait vacciner dès le début et ceux qui n'étaient pas forcément convaincus, mais qui ont fait le choix, par solidarité aussi avec le système de santé et avec leurs collègues, de se faire vacciner depuis. Je voudrais qu'on remercie aussi ceux-là.
Et vous faites passer quel message aujourd'hui en termes de vaccination ?
Mais que c'est le seul chemin. C'est le seul chemin qu'on a pour en sortir. Et d'ailleurs, si on a réussi à passer l'été qu'on a passé, avec un grand nombre d'événements qui ont pu se tenir, un grand nombre d'activités qui ont pu reprendre, c'est grâce à la vaccination. Il n'y a pas de secret. Et il suffit de regarder dans les Antilles comment ça se passe, ou dans les Outre-mer, où il y a un lien qui est très clair entre le retard de vaccination et la reprise de l'épidémie, avec une reprise de couvre-feu, de toutes les mesures qu'on connaît. Donc c'est le seul chemin. Et il faut que chacun se s'entende comme faisant partie d'un tout. Et de notre comportement dépend l'immunité collective et le fait que ce soit vraiment derrière nous. Ce qu'on a tous envie, je pense, d'avoir dans nos vies professionnelles comme personnelles.
Justement, vous parlez parliez des mesures sanitaires qui sont prises par rapport à l'évolution des chiffres. Hein. On a parlé beaucoup en France d'une approche territorialisée pour assouplir ou non les mesures. Aujourd'hui, face aux chiffres des Alpes-de-Haute-Provence, on est plutôt dans l'assouplissement ou dans le durcissement ?
On a déjà eu des assouplissements ces dernières semaines, puisqu'il y a un certain nombre d'arrêtés de port de masque que je n'ai pas reconduit dans le département sur un grand nombre de communes. D'autre part, je n'ai pas jugé pertinent à la rentrée des classes de reprendre un arrêté qui imposait le port du masque aux abords des écoles, parce que le taux d'incidence a quand même beaucoup diminué et qu'il faut le rappeler, on fait tout ça parce que les hôpitaux ne sont pas saturés. Et les hôpitaux vont plutôt mieux dans le département ces dernières semaines que depuis le début de l'année. Et l'obligation vaccinale au 15 septembre n'a pas modifié cela. On a eu quelques fermetures de lits à la rentrée au 15 septembre, mais on a beaucoup moins de personnes hospitalisées pour Covid que depuis des mois. On avait la semaine dernière une personne en réanimation dans le département. Souvenez-vous, pendant tout le premier semestre, on avait une petite dizaine de personnes en réanimation. Donc ça va mieux, ça nous a permis d'assouplir les choses. Aujourd'hui, on a des mesures de port du masque qui demeurent. On a une mesure qu'on a prise au mois d'août, vous en souvenez peut-être, où parce que notre taux d'incidence était supérieur à 200, on a dû prendre une obligation de port du masque dans les lieux, les ERP notamment, établissements recevant du public, où le pass sanitaire était lui aussi obligatoire, parce qu'on peut être vacciné évidemment, et donner et attraper encore le Covid, évidemment avec des symptômes beaucoup moins graves. Donc il reste aujourd'hui cet arrêté de port du masque que je pourrais retirer le jour où notre taux d'incidence sera en dessous de 50 pendant plusieurs jours de suite.
Aujourd'hui,
et puis il y a un autre arrêté que on est passé sous la barre de 100, c'est la bonne nouvelle de ces dernières heures. On est enfin passé sous la barre de 100, mais je rappelle que on n'était que 7 départements la semaine dernière à être au-dessus de 100 en métropole. Donc faisions partie là du top 7 du taux d'incidence. Donc ça diminue, on passe enfin sous la barre des 100, il faut encore qu'on passe sous la barre des 50. Et ça sera la même chose pour l'autre mesure de port du masque qui demeure, qui est de portée départementale, qui concerne tous les marchés, les foires et autres.
Alors, là où le gouvernement est attendu aussi, c'est sur la question des remontées mécaniques. Est-ce qu'on va tomber dans un scénario qui est identique à l'an dernier, où elle n'avait pas pu fonctionner ? Est-ce qu'il faudra le pass sanitaire ? Aujourd'hui, comment se passent les discussions, Madame la Préfète ?
Alors, les discussions, elles se passent au niveau national, elles se passent pas au niveau local. Les professionnels de la montagne ont été nombreux à faire part au gouvernement, évidemment, ils me l'ont dit également ici dans le département, de leur attente forte. D'abord pour avoir une saison qui ne soit pas une saison noire, et ensuite pour être informé le plus tôt possible, parce qu'il y a un certain nombre de recrutements qui se font dans les prochaines semaines, vous le savez, notamment nos saisonniers, et qu'il faut, s'il faut mettre en place le pass sanitaire, il y a quand même quelques dispositions à prendre. Donc les discussions se passent au niveau national, il y avait encore une réunion importante hier, dont je n'ai pas les conclusions, mais vous le savez, le ministre en charge du tourisme, Monsieur Lemoine, s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours, et il indiquait qu'à la mi-octobre au plus tard, les décisions seraient prises et communiquées. Donc on est tous en attente de ça.
Un autre point noir qualifie le département, ce sont les routes. Hier soir encore, un accident impliquant deux motos et une voiture s'est produit vers 19h à Maligé. Là aussi, on tire quoi comme conclusion ? Est-ce qu'on roule mal dans les Alpes-de-Haute-Provence ou est-ce que c'est un département qui a le plus de routes accidentogènes ?
D'abord, on a beaucoup de routes dans le département. On a plus de 3000 km de routes, vous le savez, parce qu'on a un département qui est très très vaste. C'est quelque chose qui n'est pas toujours mesuré, mais notre département fait presque un quart de la région PACA. Donc forcément, on roule beaucoup parce qu'on est par ailleurs dans un département rural où on a besoin de sa voiture pour vivre. Mais on a évidemment, vous l'avez dit, à se poser la question des causes et à travailler dessus. Donc on sait que dans nos accidents qui sont en augmentation, tous les indicateurs sont au rouge cette année. Tous. En termes d'accidents, en termes de blessés, en termes de tués, on a 5 décès de plus que l'année dernière à la même époque. Tout est au rouge. Donc quand on analyse les causes, on voit qu'il y a évidemment, hélas, encore une vitesse qui n'est pas adaptée dans près de la moitié des accidents. Et on a beaucoup trop de fautes d'inattention. Donc il faut continuer à travailler là-dessus, à ce que chacun modifie son comportement.
Et ça passera par une action commune entre préfecture et justice, notamment avec le procureur Rémi Avon ?
Bien sûr, on a deux champs, vous le savez, d'action. On a tout ce qui est action de prévention qu'on a repris depuis plusieurs semaines. Et donc on va dans des festivals de moto, par exemple, il n'y a pas très longtemps à Barcelone, parce que les deux roues sont très concernées. On fait un certain nombre d'actions de prévention. Et puis on est présent sur la répression. On a de plus en plus de suspensions de permis. Et derrière, la justice est au rendez-vous pour donner les peines qui s'imposent.
Alors un sujet inquiète énormément dans les Alpes-de-Provence, c'est la lavande. Hein. Il faut savoir quand même que les Alpes-de-Provence, c'est le premier département français en termes de superficie de lavande et lavandin, 43% de la superficie nationale. Et il y a une crainte, ce fameux pacte vert européen qui pourrait classer les huiles essentielles de lavande et lavandin en produits toxiques. Le corps politique se dit prêt à monter jusqu'à Bruxelles pour porter ce mécontentement. Est-ce qu'on trouvera la préfète en tête du cortège?
La préfète, elle est en tout cas dans le cortège. Elle est totalement aux côtés de la profession agricole et de la filière sur ce sujet. Parce que vous l'avez dit, notre département, il est au cœur de la filière PAPAM et des huiles essentielles de lavande et lavandin. Et donc, on a déjà conduit un stand d'action avec les élus de ce département. Et c'est un sujet qui a été abordé à l'occasion de la visite du président de la République. La veille de cette visite, le ministre de l'Agriculture, avec les élus du département et les professionnels, avait organisé une réunion un peu de crise et qui avait permis d'aboutir à la satisfaction de la profession sur une méthode. Une méthode pour essayer de faire entendre la voix de l'État à Bruxelles et pour éviter des écritures de réglementation qui viendraient considérer que nos huiles essentielles de lavande et lavandin sont comme des hydrocarbures. Donc le cortège, il est bien là. On a un stand de réunions qui se sont mises en place, qui se poursuivent. Et clairement, l'État et le pays sera uni derrière sa filière pour pouvoir la défendre.
Dernière question, Madame la Préfète. Les élections municipales de Digne-les-Bains, vous suivez cela certainement de très près. Le Conseil d'État donnera sa décision courant octobre, mais comme il le fait à 90% des cas, il devrait suivre l'avis du rapporteur, le rapporteur qui, lui, préconisait l'annulation des élections ayant remis sur le fauteuil du maire Patricia Granet. On suppose que dans ce type de dossier, il faut aller vite parce que c'est un mandat et ce sont les projets de la ville-préfecture qui menacent d'être paralysés par un imbroglio politique.
Oui, bah ce qui est clair, c'est que on est tous en attente, nombreux dans ce département, de la décision du Conseil d'État. Vous avez rappelé la façon dont les échanges s'étaient passés la semaine dernière. Et en effet, la décision devrait tomber maintenant d'ici 10 jours à 3 semaines. Il advenait en effet que le Conseil d'État confirme l'annulation de l'élection de la maire de Digne, ce qui va se passer de façon très concrète, c'est qu'au prononcé de cette décision, Madame le maire, comme tous ses conseillers municipaux, perdent leur mandat. À la fois à la ville de Digne, à la fois au sein de l'agglomération de Digne. Mmh. Et dans cette situation-là, c'est en effet moi qui, en tant que préfète, va devoir désigner une délégation spéciale composée de 3 personnes et qui va être en charge, la délégation, de pouvoir gérer les affaires courantes et urgentes de la commune. Et j'aurai ensuite à peu près 3 mois, pour faire simple, pour organiser de nouvelles élections. Donc, faut qu'on aille vite, mais en même temps qu'on prenne le temps de bien organiser les choses, puisque une telle élection, et sur le chef-lieu de département, vous l'avez dit, c'est assez inédit. Et on le fera de façon à ce que les dossiers, en effet, n'en pâtissent pas au service des Dinois et des Dinoises.
Merci beaucoup, Violaine Desmarais, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Merci.
Merci.